sais, vint dire Hyacinthe à sa sœur. C'est idiot de vous disputer comme ça. Vous feriez bien mieux de descendre. Camille le renvoya durement. Va-t'en, toi, et emmène les autres. Ça vaudra mieux qu'ils ne soient pas sur notre dos. Hyacinthe regarda sa mère en fils qui savait et qui trouvait ça ridicule. Puis, vexé de l'avoir si peu énergique devant sa gale de sœur, comme il nommait celle-ci, il haussa les épaules, les abandonnant toutes les deux à leurs bêtises, se décidant à emmener les autres. On entendit les rires de Rosemonde qui s'éloignait, tandis que le général descendait avec Madame Fonsègue, à laquelle il racontait une nouvelle histoire. Mais, à ce moment, quand la mère et la fille se crurent seules, des voix encore vinrent à leurs oreilles, les voix toutes voisines de Duvillard et de Fonsègue. Le père était toujours là, qui pouvait les entendre. Ève sentit qu'elle aurait dû quitter la place, et elle n'en trouvait pas la force. C'était impossible sur le mot qui avait frappé comme d'un soufflet, dans la détresse où la jetait la crainte de perdre son amant. « Gérard ne peut t'épouser, il ne t'aime pas. »«
Il m'aime. »«
Tu t'imagines qu'il t'aime, parce qu'il s'est montré bon pour toi, par gentillesse, en te voyant délaissé. » Mais il ne t'aime pas.
Il m'aime parce que d'abord je ne suis pas une bête comme tant d'autres, et il m'aime surtout parce que je suis jeune. »
C'était une blessure nouvelle, faite avec une cruosité moqueuse, où sonnait la joie triomphante de voir enfin se mûrir et se faner cette beauté dont elle avait tant souffert.
La jeunesse. Ah, vois-tu, ma pauvre maman, tu ne sais plus ce que c'est. Si je ne suis pas belle, je suis jeune, je sens bon, j'ai des yeux purs, des lèvres fraîches. Et tout de même, j'ai tant de cheveux et si longs qu'il suffirait à m'habiller si je voulais. Va, on n'est jamais laide quand on est jeune. Tandis que lorsqu'on est plus jeune, ma pauvre maman, va, c'est bien fini. On a beau avoir été belle, sans têter à l'être encore, rien ne reste que des ruines, que la honte et le dégoût. »
Elle avait dit cela d'une voix si féroce, si aiguë, que chaque phrase était entrée dans le cœur de sa mère, comme un couteau. Des larmes en montèrent aux yeux de la malheureuse, frappées en sa plaie vive. C'était vrai, elle restait sans armes contre la jeunesse. Elle n'agonisait que de vieillir, que de sentir l'amour s'en aller d'elle, maintenant qu'elle était pareille aux fruits trop mûrs tombés de la branche.
« Jamais la mère de Gérard ne consentira à ce qu'il t'épouse !»«
Il la décidera, ça le regarde. J'ai 2 millions, on arrange bien les choses avec 2 millions. »«
Veux-tu donc le salir, dire qu'il t'épouse pour ton argent ?»«
Non, non, Gérard est un garçon très honnête et très gentil. Il m'aime, il m'épouse pour moi. »
Mais enfin, il n'est pas riche, il n'a pas de situation assurée à 36 ans. Et c'est tout de même à prendre en considération une femme qui vous apporte la richesse avec le bonheur. Car entends-tu, maman, c'est le bonheur que je lui apporte, le vrai, l'amour partagé, certain de l'avenir. »
Une fois encore, elle se retrouvait visage contre visage. L'exécrable scène, coupée par les bruits environnants, abandonnée, reprise, s'éternisait. Tout un drame assourdi, d'une violence de meurtre, mais sans éclat, les voix étranglées. Ni l'une ni l'autre ne cédait, même sous la menace d'une surprise possible, avec toutes les portes ouvertes, les domestiques qui pouvaient entrer, la voix du père qui continuait à sonner gaiement, là, près d'elle.
« il t'aime, c'est toi qui dis cela, lui ne te l'a jamais dit. »
« Il me l'a dit 20 fois, il me le répète chaque fois que nous sommes seuls. »«
Oui, comme à une petite fille qu'on veut amuser. Jamais il ne t'a dit qu'il était résolu à t'épouser. »«
Il me l'a dit, encore la dernière fois qu'il est venu. Et c'est arrangé, j'attends qu'il décide sa mère et qu'il fasse sa demande. »«
Ah, tu mens, malheureuse, tu veux me faire souffrir et tu mens. »
Sa douleur, enfin, éclatait dans ce cri de protestation. Elle ne sut plus qu'elle était mère, qu'elle parlait à sa fille. La femme amoureuse seule demeurait, outragée, exaspérée par une rivale. Et elle avoua en un sanglot
« c'est moi qui l'aime. La dernière fois, il m'a juré, tu entends, juré sur son honneur, qu'il ne t'aimait pas toi, que jamais il ne t'épouserait. »
Camille, riant de son rire aigu, prit un air d'apitoiement railleur.
« Ah, ma pauvre maman, tu me fais de la peine. Et tu as ces enfants. Oui, en vérité, c'est toi qui es l'enfant. Comment ? Toi qui devrais avoir tant d'expérience, tu te laisses prendre encore aux protestations d'un homme. Et celui-là n'est pas méchant, et c'est même pourquoi il te jure tout ce que tu veux. Un peu lâche, au fond, désireux surtout de te faire plaisir. Tu mens, tu mens. Voyons, raisonne. S'il ne vient plus, s'il a esquivé ce matin le déjeuner, c'est qu'il a de toi par-dessus la tête. Tu es lâchée, ma pauvre maman. Il faut que tu aies le courage de te bien mettre cela dans la tête. Il reste gentil parce qu'il est bien élevé et qu'il ne sait comment rompre. Enfin, il a pitié de toi.
Tu mens, tu mens.
Mais questionne-le, en bonne mère que tu devrais être. Aie une franche explication avec lui. Demande-lui amicalement ce qu'il entend faire. Et sois gentille à ton tour. Comprends que si tu l'aimes, tu devrais me le donner tout de suite, dans son intérêt. Rends-lui sa liberté. Tu verras bien que c'est moi qui l'aime.
Tu mens, tu mens. Ah, misérable enfant, qui ne veut que me torturer et me tuer.
Et dans sa furieuse détresse, Ève se rappela qu'elle était la mère, qu'elle devait corriger cette fille indigne. Elle ne trouva pas de bâton. Elle arracha de la corbeille des roses jaunes qui les grisaient toutes deux de leur puissante odeur, une poignée de ces fleurs à hautes tiges épineuses, et elle en souffleta Camille. Une goutte de sang parut à la tempe gauche près de la paupière. Sous la correction, la jeune fille, pourpre, affolée, s'était jetée en avant, la main haute, prête à frapper elle aussi. « Ma mère, prenez garde !» Je vous jure que je vous battrai comme une simple gueuse. Et dites-vous bien ceci maintenant. Je veux Gérard, j'épouserai Gérard. Je vous le prendrai par le scandale si vous ne me le donnez pas de bonne grâce. » Après son acte de colère, Ève était tombée dans un fauteuil, brisée et perdue. Et toute son horreur des querelles revenait dans son besoin de vie heureuse, d'égoïste jouissance à être caressée, flattée, adorée. Tandis que Camille, menaçante, dévorante, se montrait enfin à nu, l'âme dure et noire, sans pardon, ivre de sa cruauté. Il y eut un silence suprême, pendant lequel on entendit de nouveau la voix gaie de Duvillard, venant du cabinet voisin. Doucement, la mère s'était mise à pleurer, lorsque Hyacinthe, le fils, remonté en courant, tomba dans le petit salon. Il regarda les deux femmes, et il eut un geste d'indulgent mépris.
Hein, vous êtes contente, qu'est-ce que je vous disais? Comme si vous n'auriez pas mieux fait de descendre tout de suite. Vous savez que tout le monde vous demande en bas. C'est imbécile, je viens vous chercher.
Peut-être Ève et Camille ne l'auraient-elles pas suivi encore dans le tremblement où elles étaient, le besoin qu'elles avaient de se blesser et de souffrir davantage. Mais Duvillard et Fonsègue sortaient du cabinet, ayant fini leur cigare, parlant de descendre eux aussi. Et Ève dut se relever, sourire, les yeux secs, pendant que Camille, devant une glace, arrangeait ses cheveux, essuyait avec la corde de son mouchoir la petite goutte rouge qui perlait à sa tempe. En bas, dans les trois vastes salons, décorés de tapisseries et de plantes vertes, la foule était déjà considérable. On avait drapé les comptoirs de soie rouge, ce qui encadrait les marchandises d'un éclat, d'une gaieté sans pareille. Et il n'était pas de bazar qui aurait pu lutter avec les 1000 objets entassés là, car on y trouvait de tout, depuis des esquisses de maîtres et des autographes d'écrivains célèbres, jusqu'à des chaussettes et à des peignes. Ce pêle-mêle lui-même était un attrait, sans compter le buffet, où de belles mains blanches servaient du champagne, ni les deux loteries, un orgue et une charrette anglaise attelée d'un poney, dont un essaim de jeunes filles charmantes, lâchées à travers la cohue, vendait les billets. Mais, comme Duvillard y avait bien compté, le grand succès de la vente allait être surtout dans le petit et délicieux frisson que les belles dames éprouvaient en passant sous le porche où avait éclaté la bombe. Les grosses réparations étaient terminées, les murs et les plafonds pansés, refaits en partie. Seulement, les peintres n'étaient pas venus encore. Les terribles blessures apparaissaient comme des cicatrices récentes, aux parties crayeuses de pierre et de plâtre neuf. Des têtes inquiètes, ravies pourtant, sortaient des voitures, dont le défilé continu ébranlait le pavé sonore de la cour. Et après l'entrée, dans les trois salons, devant les comptoirs de vente, les conversations ne tarissaient pas. « Ah, ma chère, avez-vous vu ? C'est effrayant, effrayant, toutes ces balafres. La maison entière a failli sauter. Et dire que ça peut recommencer, pendant que nous sommes là. Vraiment, il faut du courage pour venir. Mais cette œuvre est si méritoire, il s'agit d'un nouveau pavillon à construire. Et puis, les monstres verront que tout de même, nous n'avons pas peur. » Lorsque la baronne Ève descendit enfin occuper son comptoir avec sa fille Camille, elle y trouva les vendeuses en pleine fièvre déjà, sous la direction de la princesse Rosemonde, qui, en ces sortes d'occasions, était extraordinaire de ruse et de rapacité. Elle volait les clients avec impudence. « Ah, vous voilà ! » cria-t-elle. « Défiez-vous d'un tas de marchandeuses qui sont ici pour faire de bons coups. Je les connais. Elles guettent les occasions, bousculent les étalages, attendent qu'on perde la tête et qu'on ne s'y reconnaisse plus, pour payer moins cher que dans les vrais magasins. Je vais les saler, moi, vous allez voir. » Ève, qui était une vendeuse exécrable et qui se contentait de trôner dans son comptoir, dut s'égayer avec les autres. Elle affecta de faire, doucement, quelques recommandations à Camille, que celle-ci écouta en souriant, d'un air d'obéissance. Mais la triste et misérable femme succombait sous l'émotion, dans la pensée d'angoisse de rester là jusqu'à 7 heures, à souffrir devant tout ce monde, sans soulagement possible. Et ce fut pour elle un répit que d'apercevoir l'abbé Pierre Froment, qui l'attendait, assis sur une banquette de velours rouge, près du comptoir. Les jambes rompues, elle s'assit à côté de lui. « Ah, monsieur l'abbé, vous avez reçu ma lettre, vous êtes venu. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et cette nouvelle, j'ai voulu vous laisser le plaisir de la donner vous-même à votre protégé, à ce la veuve que vous m'avez recommandé si chaudement. Toutes les formalités sont remplies, vous pouvez nous l'amener demain à l'asile. » Stupéfait, Pierre la regardait. « La veuve, il est mort. » À son tour, elle s'étonna. « Comment il est mort? Mais vous ne m'en avez rien dit. Si je vous contais tout le mal qu'on s'est donné, tout ce qu'il a fallu défaire et refaire, et les discussions et les paperasses, vous êtes sûr qu'il est mort? » « Oh oui, il est mort. Il y a un mois qu'il est mort. » « Un mois qu'il est mort? Nous ne pouvions pas savoir. Vous ne nous avez plus donné signe de vie. Ah, mon Dieu, quel ennui qu'il soit mort. Cela va nous forcer à tout défaire encore une fois. » « Il est mort, madame. J'aurais dû vous en prévenir, c'est vrai. Mais que voulez-vous, il est mort. » Et ce mot de mort qui revenait, l'aventure de ce mort dont elle s'occupait depuis un mois, la glaçait, achevait de la désespérer, comme le mauvais présage de la mort froide où elle se sentait descendre dans le linceul de son dernier amour. Tandis que Pierre, malgré lui, souriait amèrement de tant d'ironie atroce. Ah, charité boiteuse qui vient lorsque les gens sont morts. Le prêtre resta sur la banquette, quand la baronne dut se lever, en voyant arriver le juge d'instruction Amadieu, très pressé, ayant hâte de faire acte de présence et d'acheter un menu objet avant de retourner au palais. Mais le petit Massot, le reporter du Globe, qui rôdait autour des comptoirs, l'aperçut, fondit sur lui en mal de renseignements. Il l'enveloppa, le soumit à la question pour savoir où en était l'affaire de ce Salvat, cet ouvrier mécanicien qu'on accusait d'avoir déposé la bombe sous le porche. N'était-ce qu'une invention de la police, comme le disaient certains journaux? Ou bien était-ce vraiment la bonne piste? La police allait-elle enfin l'arrêter? Et Amadieu se défendait, répondait avec raison que l'affaire ne le regardait pas encore, qu'elle ne deviendrait sienne que si ce Salvat était arrêté et si on lui confiait l'instruction. Seulement, dans son air d'importance finaude, dans sa correction de magistrat mondain aux yeux d'acier, perçait toutes sortes de sous-entendus, comme s'il était au courant déjà des moindres détails et qu'il eût promis de grands événements pour le lendemain. Des dames faisaient cercle, un flot de jolies femmes, enfiévrées de curiosité, se bousculant pour entendre cette histoire de brigand qui leur mettait la petite mort à fleur de peau. Amadieu s'esquiva lorsqu'il eut payé 20 francs à la princesse Rosemonde un étui à cigarettes qui valait bien 30 sous. Massot, en reconnaissant Pierre, était venu lui serrer la main. « N'est-ce pas, monsieur l'abbé, ce Salvat doit être loin, s'il a de bonnes jambes et s'il court toujours. La police me fera toujours rire. » Mais Rosemonde lui amenait Hyacinthe. « Monsieur Massot, vous qui allez partout, je vous prends pour juge. Le cabinet des horreurs à Montmartre, la taverne où le gras chante ses fleurs du pavé. » « Un endroit délicieux, madame. Je n'y mènerai pas un gendarme. » « Ne plaisantez pas, monsieur Massot, c'est très sérieux. N'est-ce pas qu'une femme honnête peut y aller quand un monsieur l'accompagne ?» Et, sans lui laisser le temps de répondre, elle se tourna vers Hyacinthe. « Ah, vous voyez bien que monsieur Massot ne dit pas non. Vous m'y conduirez ce soir. C'est juré, c'est juré !» Et elle se sauva. Elle retourna vendre un paquet d'épingles 10 francs à une vieille dame, pendant que le jeune homme se contentait de dire de sa voix désabusée « Elle est idiote avec son cabinet des horreurs !» Massot, philosophiquement, haussa les épaules. Il fallait bien qu'une femme s'amusât. Puis, lorsque Hyacinthe se fut éloignée, traînant son mépris pervers, parmi les belles filles qui vendaient les billets de loterie, il se permit de murmurer « Ce petit-là, tout de même, aurait grand besoin qu'une femme fît de lui un homme. » Et, s'interrompant, s'adressant de nouveau à Pierre, « Tiens, Dutheil, que disait donc sa nièce ce matin que Dutheil coucherait ce soir à Mazas ?» En effet, Dutheil, très pressé, très souriant, fendait la foule afin de rejoindre Duvillard et Fonsègue qui causait toujours, debout près du comptoir de la baronne. Et tout de suite, il agita la main, en signe de victoire, pour dire qu'il avait réussi dans la délicate mission dont il s'était chargé. Il ne s'agissait de rien moins que d'une manœuvre hardie, destinée à hâter l'entrée de Sylviane à la Comédie-Française. Elle avait eu l'idée d'amener le baron à la faire dîner, au café anglais, avec un critique influent, qui, disait-elle, forcerait l'administration à lui ouvrir toute grande la porte, dès qu'il la connaîtrait. Et l'invitation n'était pas facile à faire accepter, car le critique passait pour grognon et sévère. Aussi, Dutheil, repoussé d'abord, déployait-il depuis 3 jours toute sa diplomatie, mettant en jeu les plus lointaines influences. Il rayonnait, il avait vaincu. « Mon cher baron, c'est pour ce soir, 7h30. »« Ah, sapristi, j'ai eu plus de mal que pour enlever le vote d'une omission à l'eau. » Et il riait, avec sa jolie impudence d'homme de plaisir, que sa conscience d'homme politique gênait si peu, très amusé par cette allusion à la dénonciation nouvelle de la voix du peuple. « Ne plaisantez pas !» dit tout bas Fonsègue, qui voulut s'égayer. Lui, à le terrifier un peu. « Ça va très mal !» Dutheil devint pâle, vit le commissaire de police et Mazas. Ça le prenait par crise, comme les coliques. Mais dans son manque ingénu de tout sens moral,
Il se rassurait, se remettait à rire aussitôt. Que diable, la vie était bonne.
Bah, répliqua-t-il gaiement, en clignant l'œil du côté de Duvillard. Le patron est là.
Celui-ci, content, lui avait serré les mains, l'avait remercié en disant qu'il était un gentil garçon. Et se tournant vers Fonsègue, « Dites donc, vous en êtes ce soir ?»«
Oh, il le faut. Je veux quelque chose d'imposant autour de Sylviane.
Dutheil représentera la chambre, vous le journalisme, moi la finance. » Il s'interrompit brusquement en voyant arriver Gérard, qui, sans hâte, l'air sérieux, s'ouvrait un discret passage au travers des jupes. Il l'appela du geste.
« Gérard, mon ami, il faut que vous me rendiez un service. »
Puis il lui conta la chose, l'acceptation désirée du critique influent, le dîner qui allait décider de l'avenir de Sylviane, le devoir où étaient tous ses amis de se grouper autour d'elle.
« Je ne peux pas, » répondit le jeune homme embarrassé. « Je dîne chez ma mère, qui était un peu souffrante ce matin. »
« Votre mère est trop raisonnable pour ne pas comprendre qu'il y a des affaires d'une gravité exceptionnelle. Retournez vous dégager, contez-lui une histoire, dites-lui qu'il y va du bonheur d'un ami. »
Et comme Gérard faiblissait, « Enfin, mon cher, j'ai besoin de vous, il me faut un homme du monde. Le monde, vous savez, c'est une si grande force au théâtre. Et si notre Sylviane a le monde avec elle, son triomphe est assuré. »
Gérard promit, puis resta là un instant, à causer avec son oncle, le général de Beauzonnet, très égayé par cette cohue de femmes où il flottait dans la bousculade, tel qu'un vieux navire désemparé. Après avoir remercié Madame Fonsègue de sa complaisance à écouter ses histoires, en lui achetant pour 100 francs un autographe de Monseigneur Martin, il s'était perdu parmi les seins des jeunes filles, rejetées de l'une à l'autre. Et il revenait, les mains chargées de billets de loterie.
« Ah, mon gaillard, je ne te conseille pas de te risquer parmi ces jeunes personnes. Ton dernier sou y resterait.
Mais tiens, voici Mademoiselle Camille qui t'appelle. » Celle-ci, en effet, depuis qu'elle avait aperçu Gérard, attendait, lui souriait de loin. Et, lorsque leurs regards se rencontrèrent, il dut aller à elle, bien qu'au même moment, il eut senti sur lui les yeux désespérés d'Ève, qui l'appelait, le suppliait eux aussi. Tout de suite, Camille, se sentant surveillée par sa mère, exagéra son amabilité de vendeuse, profita des petites licences que la fièvre charitable autorisait, glissa dans les poches du jeune homme de menus objets, en mit d'autres dans ses deux mains, qu'elle serra entre les siennes, et cela dans un éclat de jeunesse, avec de grands rires frais, qui, là-bas, torturait l'autre, la rivale. Souffrant trop, Ève voulut intervenir, les séparer. Mais, justement, Pierre l'arrêta au passage, pris d'une idée qu'il désirait lui soumettre avant de quitter la vente. « Madame, puisque ce laveuve est mort et que vous vous êtes donné une telle peine pour le lit qui est libre, veuillez donc n'en pas disposer avant que j'aie vu notre véritable ami, l'abbé Rose. Je le vois ce soir, et lui qui connaît toujours tant de misère, il serait si heureux d'en soulager une, de vous amener un de ces pauvres. »
« Mais certainement, balbutia la baronne, je serai bien heureuse. Comme vous voudrez, j'attendrai un peu.
Sans doute, monsieur l'abbé. »
Elle tremblait de tout son misérable être souffrant. Elle ne savait plus ce qu'elle disait. Et elle ne put vaincre sa passion. Elle lâcha le prêtre, elle ignora même qu'il fût resté là, lorsque Gérard, cédant à l'imploration douloureuse de son regard, réussit à s'échapper des mains de la fille pour rejoindre enfin la mère.
« Comme vous vous faites rare, mon ami, » dit-elle tout haut avec un sourire. « On ne vous voit plus. »
« Mais, répondit-il de son air aimable, j'ai été souffrant. Oui, je vous assure, un peu souffrant. »
Lui, souffrant ? Elle le regardait, bouleversée de maternité inquiète.
dans sa haute et fière mine, son visage correct de bel homme, lui parut en effet blêmi. Cachant moins sous la noblesse de la façade l'irréparable délabrement intérieur. C'était vrai qu'il devait souffrir, dans sa bonté native, de sa vie inutile et manquée, de tout l'argent qu'il coûtait à sa pauvre mère, des nécessités qui finissaient par le pousser à ce mariage avec cette fille riche, cette infirme, qu'il s'était mis à plaindre. Et elle le sentit si faible lui-même, en proie à une telle tourmente, pareille à une épave, que son cœur déborda, en une supplication ardente, à peine murmurée, au milieu de cette foule qui pouvait entendre. « Si vous souffrez, ah, que je souffre, Gérard, il faut nous voir, je le veux !» Gêné, il balbutia lui-même. « Non, je vous en prie, attendons. Gérard, il le faut, Camille m'a dit vos projets. Vous ne pouvez refuser de me voir, je veux vous voir. » Alors, frémissant, il tâcha encore d'échapper à la cruelle explication. « Mais là-bas, vous savez, c'est impossible, on connaît l'adresse. » « Eh bien, demain, à 4 heures, dans ce petit restaurant du bois, où nous nous sommes déjà rencontrés. » Il dut promettre, ils se séparèrent. Camille venait de tourner la tête et les regardait. Un flot de femmes assiégeait le comptoir, et la baronne se mit à vendre, de son air de déesse mûre, nonchalante, pendant que Gérard rejoignait Duvillard, Fonsègue et Dutheil, très excités par l'attente de leur dîner du soir. Pierre avait en partie entendu. Il connaissait les dessous de cette maison, les tortures, les misères physiologiques et morales que cachait l'éclat de tant de richesses et de puissance. Ce n'était qu'une plaie sans cesse accrue, envenimée et saignante, tout un mal rongeur, dévorant le père, la mère, la fille, le fils, délié du lien social. Et pour quitter les salons, Pierre faillit se faire étouffer dans la cohue des acheteuses, qui manifestaient en faisant un triomphe de la vente. Là-bas, au fond de l'ombre, Salva galopait, galopait, se perdait, tandis que la veuve, le mort, était comme le soufflet d'ironie atroce à l'illusoire et tapageuse charité.